Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, un exercice de transmission de la mémoire militante, celle d'un jeune trotskiste de 68 qui s'interroge sur le crépuscule d'une vieille gauche qui a tant pesé dans la vie politique française. Il sera aussi question de l'intégration d'un juif immigré d'Algérie, devenu professeur d'université, spécialiste de l'histoire coloniale, président du Conseil d'orientation du Musée national d'histoire de l'immigration. Benjamin Stora publie 68 et après Les héritages égarés. Chez Stock, il sera notre invité à 12h55. Mais avant cela, une histoire d'amour, un amour impossible comme il se doit, puisque nous allons évoquer Bérénice. Le drame de Racine se joue actuellement aux ateliers Berthier à Paris, dans une mise en scène toute en épure de Célie Pote. L'occasion de revenir sur cette figure tragique par excellence avec deux actrices. Mélodie Richard et Julie Brochen sont les invités de La Grande Table, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Raphaël Bourgois.
Alors faut-il rappeler l'histoire de Bérénice peut-être en quelques mots quand même pour nos auditeurs, l'histoire, je le disais, d'un amour impossible, celui qui lie Titus, devenu empereur de Rome, qui après avoir maté la révolte des Juifs en Judée-Samarie est revenu avec Bérénice, reine des Juifs. C'est l'opposition entre traditionnelle entre la raison d'État, le respect des lois de Rome qui lui interdisent à Titus d'épouser une non-romaine et la raison du cœur évidemment qui lui fait croire pendant presque toute la pièce bien avant qu'il va pouvoir aller contre ses lois. C'est aussi un triangle amoureux, puisque Antiochus, l'ami et le frère d'armes de Titus, l'ami et le confident de Bérénice, déclare dès le début de la pièce ne plus pouvoir taire cet amour pour celle-ci. C'est une histoire qui est racontée aussi différemment selon les époques.
Julia Barthet a joué le rôle admirablement, parce qu'elle en avait la voix. Je pense que c'est un être très tendre, Bérénice. C'est un être de lumière. C'est un être de lumière. C'est un cœur qui ne demande qu'à aimer un cœur et à avoir des bras qui l'entourent.
Bérénice est un personnage avant toute chose, je crois, fait d'amour. Elle est généreuse, elle est totale, elle est disponible, elle est comme la femme peut aimer, parfois avec tant de profondeur. Elle est en opposition avec l'amour de Titus, qui lui est un amour d'homme, et je ne développerai pas là-dessus.
C'est presque, pour moi, le mythe de l'étrangère. C'est quelqu'un qui est déplacé. Déplacé à Rome, et amenant quelque chose d'ailleurs, mais de très loin. Ça peut être aussi vieille de plusieurs millénaires aussi. Je veux dire qu'elle vient d'un autre univers et ça me semble très important dans la pièce. Elle vient du désert aussi. Enfin, il y a quelque chose comme un souffle chaud d'ailleurs.
La voix de Ludmila Michael qui a interprété Bérénice dans une mise en scène mythique de 1984, c'était juste après avoir entendu Geneviève Casile qui, elle, l'a interprété en 1979. Et on est même remonté jusqu'à Germaine Rouet qui l'avait interprété en 1934 et nous parlait de l'interprétation de Julia Barthet en 1893. On entend donc dans cette évolution alors que Mélodie perd son micro, Mélodie Richard, c'est assez troublant. Ça va, vous arrivez à le remettre, Mélodie Richard, c'est bon, ça marche, dites quelques mots.
Alors,
vous êtes bien là, voilà. Donc quand je reprenais ce fil de l'histoire de Bérénice, on entend dans cette différentes interprétations à la fois sur la scène et de l'interprétation du personnage, Mélodie Richard, que finalement la vision de Bérénice, elle évolue avec l'histoire.
Oui, et ce qui me frappe là en entendant ces trois voix, ce qui est très beau, c'est que ce personnage parle à l'endroit de l'amour, évidemment, et ce que j'entends de Ludmila Michael qui parle de l'étrangère, je vois un endroit justement où ça peut se rejoindre, c'est-à-dire que effectivement, Bérénice est l'étrangère et celle qui vient de loin, qui vient de l'autre côté de la mer, qui a tout quitté pour suivre le bourreau de son peuple, comme dit Duras. Elle a quitté son peuple, sa langue, sa religion, ses morts. Elle a tout quitté, mais parce que elle aimait. Donc cette forme d'amour inconditionnel, elle arrive à Rome et lui, Titus, Et du côté donc de la loi, c'est-à-dire comment ça me parle de l'hospitalité en fait, l'hospitalité qui donc devrait être inconditionnelle, comme je sais pas, comme en Grèce antique, mais qui politiquement est intenable.
Julie Brochette, sur cette évolution finalement de la perception du personnage de Bérénice.
Ouais, je suis d'accord. En plus, j'ai la voix de Mélodie dans les oreilles puisque je l'ai vue dans le rôle Dimanche et qu'elle est en écho avec les voix qu'on vient d'entendre. Cette problématique de territoire, c'est la problématique de la pièce aussi parce que le champ d'amour entre les trois, c'est un territoire qui lui-même s'avère être impossible à partager, mais qui est l'espace de la langue elle-même, parce que ce qu'on entend dans Bérénice, au-delà de toutes les autres pièces de Racine, c'est ce déséquilibre du vers qu'il y a dedans et la sensualité charnelle de la parole qui nous met dans la chair même des mots. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand elle parle de la bouche, quand Antiochus dit « je me suis tue 5 ans » et puis qu'il y a une sorte de rapport physiologique à la langue qui est un territoire en soi, comme si c'était un territoire qu'on nous proposait et qu'il fallait qu'on arrive à conquérir soi-même.
Vous avez, Julie Brochette, la voix de Mélodie Richard dans l'oreille, peut-être pas tous nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance de voir la pièce, je vous propose donc d'écouter un extrait. On est à la fin de l'acte 2.
Sans doute ce chagrin qui vient de m'alarmer n'est qu'un léger soupçon, facile à désarmer. Je ne te vante point cette faible victoire. Titus, ah, plutôt ciel que, sans blesser ta gloire, un rival plus puissant voulut tenter ma foi et put mettre à mes pieds plus d'empire que toi. Que de sceptres sans nombre, il put payer ma flamme, que ton amour n'eut rien à donner, que ton âme. C'est alors, cher Titus, qu'aimé, victorieux, tu verrais de quel prix ton cœur est à mes yeux. Allons, Félix, un mot pourra les satisfaire. Rassurons-nous, mon cœur, je puis encore lui plaire. Je me comptais trop tôt au rang des malheureux. Si Titus est jaloux, Titus est amoureux.
L'endroit s'appelle encore Césarée, Césaréa. La fin de la mer. La mer qui cogne contre les déserts.
La voix de Mélodie Richard, évidemment, la voix de Marguerite Duras que nos auditeurs seront peut-être surpris d'entendre, mais on y reviendra dans quelques instants, puisque entre chaque acte est intercalé, et c'est la volonté de la metteur en scène, c'est l'hypote qui d'ailleurs dit être venu à Bérénice par ce film de Marguerite Duras, ces 10 minutes, ce court-métrage de 10 minutes qui vient s'intercaler entre chaque acte. Mais je voulais vous entendre encore un petit peu sur ce personnage, même si on va encore en parler pendant 20 minutes, Mélodie Richard de Bérénice, qui, on l'entend dans votre interprétation de cette scène. Là, j'ai eu le sentiment, en voyant cette pièce, que c'est une Bérénice qui est beaucoup plus du côté de l'amour. Elle a toujours été du côté de l'amour, mais ce que je veux dire, c'est que la raison d'État, la politique est présente, évidemment, mais dans certaines interprétations, dans cette pièce précisément, cette mise en scène précise, on est vraiment du côté de l'amour.
Mais oui, l'amour dans ce qu'il a de politique, alors, parce que c'est, comme je disais, je ressens à la fois cette fièvre à l'intérieur, parce que Bérénice, elle aussi, en fait, dans son amour pour Titus, ils avaient un projet. Ils avaient un projet, quelque chose. Leur amour, contenait déjà en lui un idéal. Et Titus le dit, c'est Bérénice qu'il a, alors que Titus suivait la pente des plaisirs trop aisés de Néron, tout ça. Et Bérénice, cette rencontre, a produit quelque chose en lui qui l'a tout à coup ramener à son idéal aussi politique. Donc quelque part, ça se retourne contre Bérénice finalement.
Oui. Julie Brochaine, sur cette tension finalement quand on monte Bérénice, vous êtes aussi metteuse en scène, quand on monte Bérénice, est-ce qu'il faut faire un choix, est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre cette tension, entre...
Non, je pense qu'il faut maintenir et nourrir le déséquilibre justement, c'est-à-dire que le trouble vient de ce déséquilibre-là qui commence par la mort de Vespasien, c'est-à-dire que...
Le père de Titus,
oui,
empereur
le père de
Rome.
Titus, il est dans ce deuil qui vient de s'achever, la noce peut commencer et je pense que Titus est amoureux au sens de Bérénice. Il n'existe qu'à travers les yeux de Bérénice, il n'imagine pas la vie sans elle, et pareil, c'est-à-dire que c'est un amour impossible, mais c'est une vie ou une mort impossible. Il y a quelque chose de... Quand on se promène, quand il fera beau, je vous engage à aller dans les premières heures au Père-Lachaise, dès que les portes s'ouvrent, on voit ces statues qui se touchent à peine, les mains comme ça, qui sont suspendues avec un rayon de soleil, et ça fait penser à cet instant volé qu'ils ont entre eux et ce projet ou cet accord qu'ils avaient entre eux et qui l'un n'existe que par rapport à l'autre ou dans le regard de l'autre et dans la voix de l'autre.
C'est un amour impossible, mais personne ne se résigne pour autant, Mélodie Richard, dans cette pièce. Et ça se termine par cette solution universelle, comme le décrit Célipote, la metteur en scène, cette solution universelle qui est la possibilité de sauver l'amour, en définitive, de la part de Bérénice,
oui.
En choisissant tout simplement de ne plus voir ni Antiochus, ni Titus.
Oui, de après avoir traversé vraiment ces eaux noires du désespoir de la pièce, de la tragédie, la fin de la tragédie, c'est peut-être rendre cet amour à l'univers, rendre à l'univers cette joie à la fin, parce que je crois que c'est une joie tragique, bien sûr, mais il y a une joie. Et j'ai découvert il y a pas longtemps qu'un rouleau d'Herculanum qui a été sauvegardé, donc parce qu'il y a eu l'éclatement des cendres du Vésuve 2 ans après le départ de Bérénice, hein, historiquement c'est vrai, après la rupture, et on a retrouvé un rouleau où il y avait écrit « Il ne faut jamais différer aucune joie ». Et la joie m'accompagne beaucoup dans l'interprétation de ce rôle, et Ludmila Mikael en parlait aussi, de cette lumière. Donc à la fin, je ne sais pas vers quoi ils vont. En tout cas, ils ne vont pas vers la mort. Ils vont vers la vie et l'amour, un amour qui n'est plus impossible. Voilà, un amour, je ne sais pas si c'est un amour qui répare quoi que ce soit, mais en tout cas, quelque chose qui les dépasse.
Pourtant, chacun évoque évidemment son suicide prochain à la fin de la pièce. Mais Bérénice est cette tragédie par excellence, je rappelle, écrite en 1670 par Racine. Tragédie par excellence aussi parce qu'il n'y a pas de mort, Julie Brochaine.
Oui, et puis ils font le choix de la vie. C'est-à-dire que c'est même pas parce qu'il n'y a pas de mort qu'ils vivent. Ils font le choix déterminé de vivre et de se porter en exemple à l'univers. C'est-à-dire que les hélas... dont il est question dans toute la pièce et qui résonne incroyablement à la fin, c'est comme une symphonie qui est devenue harmonieuse. C'est comme un point d'accord, un point d'équilibre dans le déséquilibre. Et on voit bien que c'est presque ce qui est proposé, de nous dépasser les uns les autres pour arriver à dépasser notre déséquilibre commun pour un point d'accord possible grâce à eux. C'est ce qu'ils évoquent à la fin.
Jean-Pierre Vincent, qui était l'administrateur de la Comédie Française lorsque s'est montée la mise en scène mythique de Klaus-Michael Gruber, dont vous m'avez dit, Julie Brochaine, l'avoir vu 18 fois parce que vous étiez étudiante, votre père travaillait à la Comédie Française.
J'étais même lycéenne.
Lycéenne, et vous aviez été complètement fascinée par cette mise en scène. Jean-Pierre Vincent disait, c'est peut-être la seule vraie tragédie du répertoire français.
En tout cas, moi, je me souviens très bien de lui parce que c'était en 84, donc j'étais même en fin de collège. Je suis rentrée grâce à lui dans ce texte, et je me souviens de lui allongé dans le couloir derrière les baignoires de la salle Richelieu, allongé, les yeux fermés, écoutant le spectacle, les yeux fermés. Si j'ai pu le voir aussi souvent, c'est que j'avais la possibilité d'accompagner mon père, qui était d'astreinte souvent, et de pouvoir le voir plusieurs fois. Donc c'était une vraie chance pour moi. Et de la couturière à la fin des représentations, c'est vrai que je ne les comptais plus, mais que j'avais l'impression de découvrir découvrir justement le territoire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de plus qu'un auteur, de rentrer dans un espace de liberté, de tension et de comment dire ça ? Je crois que le théâtre est devenu quelque chose de concret pour moi à travers ce texte-là et à travers... je n'avais pas l'idée si forgée dans ma tête d'en faire et que c'est cette pièce qui m'a marquée au fer rouge et c'est pas un hasard si je suis rentrée au conservatoire avec Bérénice et j'en suis même sortie avec le rôle.
Mélodie Richard, évidemment, vous n'avez pas pu voir cette mise en scène mythique, en tout cas pas au théâtre, peut-être que vous avez vu des captations. Cette interprétation de Bérénice par Ludmila Mikel, elle pèse quand on prend ce rôle quand on est une jeune actrice?
Elle pèse, oh non, elle élève, elle donne envie, elle fait rêver, voilà. Elle est comme un rêve auquel on pense et puis qui nous inspire un temps qu'on oublie. Et... non, c'est doux.
Je ne vois rien ici dont je ne sois blessée. Tout cet appartement préparé par vos soins. Ces lieux de mon amour, si longtemps les témoins, qui semblaient pour jamais me répondre du vôtre. Ces festons où nos noms enlacés l'un dans l'autre, à mes tristes regards viennent partout s'offrir, sont autant d'imposteurs que je ne puis souffrir. Allons, Phénicie.
Oh, ciel, que vous êtes injuste.
Retournez vers ce Sénat auguste qui vient vous applaudir de votre cruauté. Eh bien, avec plaisir l'avez-vous écouté. Êtes-vous pleinement content de votre gloire? Avez-vous bien promis d'oublier ma mémoire? Mais ce n'est pas assez expier vos amours. Avez-vous bien promis de me haïr toujours?
Non. Je n'ai rien promis.
La voix de Ludmila Mikel pour parler aujourd'hui dans la grande table de Bérénice qui se joue actuellement aux ateliers Berthier. C'est jusqu'au 10 juin. On reçoit Mélodie Richard qui en est l'interprète et Julie Brochen qui est actrice et metteur en scène et pour qui cette pièce a une importance particulière, notamment cette interprétation, on en parlait, de Ludmila Mikel. On l'entend une façon de dire Racine. On a beaucoup parlé au moment où cette pièce a été montée de cette façon assez blanche, tout en retenue, presque sans mettre d'intonation, de dire les vers. C'est pas exactement le choix qui est le vôtre, Mélodie Richard.
C'est comme un combat entre ce chant merveilleux et puis toutes les sensations, les émotions, l'électricité qui est contenue dans chaque vers et qui chaque soir nous oblige à danser comme ça sur un fil entre ce chant et tout ce que ça et tous les crépitements qui jaillissent de ce qu'on est en train de dire, des mots qu'on est en train de prononcer. Donc voilà, chaque soir c'est un peu cette danse là.
Julie Brochen, sur cette force de l'alexandrin et la possibilité toujours de renouveler la façon de le dire, d'aller trouver dans cette forme incroyablement rigide de l'alexandrin et très codifié. Ah, vous hochez la tête, vous allez me contredire alors, Julie Brochen.
Non, mais c'est pas tant rigide. Klaus-Michael Gruber disait une chose sublime, c'est il disait si ça n'était pas écrit en vers, ça ne pourrait pas se dire. C'est-à-dire qu'il y a une telle violence, il y a tellement de douleur qu'on a besoin de la forme pour ne pas s'arrêter de parler et que finalement on parle pour survivre et qu'on le rimer devient une arme de survie, disait-il. C'est vrai que c'est un chant, mais il y a quelque chose qui peut se jouer dans la retenue comme dans le cataclysme. Et donc, ça se rejoint. La musique fait sens, en fait. L'idée du bouleversement fait sens. Et moi, je trouve que ça n'est pas un carcan. Le vers de Racine a quelque chose de rapide, comme quand on suit des rapides, on se laisse emporter, en fait, par son rythme. Et c'est Madeleine Marion, au conservatoire, qui me disait qu'il fallait chercher constamment ce déséquilibre et c'est très très fatigant, c'est très éreintant parce qu'il faut toujours être à l'écoute de l'autre et dans la voix de l'autre pour justement être dans le déséquilibre de soi.
Mélodie Richard.
Ah oui, ça me parle
vous
tout
opinez,
à fait.
Vous opinez du chef. Justement, vous qui aimez bien vous réinventer à chaque représentation, j'ai pu lire ça dans une interview récente, réinventer, je crois que c'est Le Monde qui parlait de vous comme une trapéziste qui aime se jeter dans les airs à chaque représentation. Et est-ce que vous trouvez dans ce texte, justement, matière à une réinvention quotidienne?
Ah oui, c'est-à-dire que là, enfin, ouais, voilà, c'est comme de la musique en fait. On pourrait répéter la musique, mais le même morceau, mais non. Là, c'est la variation. La musique, c'est la variation.
L'interprétation définitive. Mm-hmm.
Donc oui, c'est comme on est comme un cuisinier avec une recette de cuisine à la fois très précise et infinie, et chaque soir on la réinterprète, mais c'est elle, ça vient d'elle, voilà.
Il y a malgré tout une direction d'acteur et d'actrice. Je m'étais juré de ne pas faire le coup de l'incroyable modernité de cette pièce et du texte, mais malgré tout, on est saisi quand on assiste à la représentation par les costumes, par la mise en scène et aussi par la façon dont le texte est dit, par cette modernité. Et en cherchant, en réfléchissant, on se dit qu'il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de la corporéité, de la façon dont le corps et les gestes de chacun des acteurs vient souligner ou s'opposer au texte tel qu'il est dit. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des directions que vous avez prises consciemment ou si ça s'est imposé comme ça, Mélodie Richard, mais c'est vrai que c'est assez frappant.
Oui, c'est le travail, bien sûr, avec Célie qui est toujours extrêmement, extrêmement attentive au texte et au poème, avec un travail à la table toujours très précis et passionné. Et puis après, elle attend que ça passe dans les corps. Donc, ce qui se passe entre les corps des acteurs chaque soir, effectivement, c'est et dans la voix. La bouche, le son aussi, qui est comme un objet quoi, entre nous, ce son, ce chant, enfin ces vers, eh bien, il nous passe à travers les corps ou sur les corps ou par les pieds qui remontent de je ne sais pas où. Et entre nous, oui, ça devient physique, vraiment. C'est très sensuel et très physiologique, comme on dit. Enfin, voilà.
Ce qui est très beau dans cette mise en scène, d'ailleurs, c'est aussi cette idée d'avoir entrelardé le travail de Duras avec cette pièce, parce qu'il y a une sorte de face-à-face des hommes en ombre chinoise sur ce grand tulle qui devient écran. Et la voix de Duras, qu'on a entendue un tout petit peu tout à l'heure, a quelque chose qui véhicule pour moi aussi tout ce trouble qui parle plus au ventre et que à la tête, enfin qui est le timbre de Marguerite Duras. Il y a quelque chose qui est troublant en soi, ne serait-ce que d'entendre sa voix au-delà des mots. Et je me souviens d'une petite archive où elle parle de l'an 2000 et qu'elle est visionnaire en disant si jamais dans cet an 2000 qui est un horizon, les hommes arrêtent de lire, s'ils continuent de lire et qu'ils ne se font pas dévorer le corps par d'autres moyens de communication qu'elle invente complètement à l'époque. Elle est extraordinairement moderne et je trouve que la modernité du travail aussi est en écho avec sa modernité à elle.
Mais ce lien entre Duras et Bérénice, on sait que Marguerite Duras était une grande lectrice de Racine, qu'elle avait les œuvres complètes sur sa table de nuit. C'est aussi ce lien, il se fait par cette sensualité finalement, avec la mise en scène telle qu'on peut la voir en ce moment aux Ateliers Berthet. On reprend conscience de cette grande sensualité de la pièce. Alors, ce serait encore un cliché de dire que ceci, parce que peut-être cette rencontre entre l'Orient et l'Occident amène ça, mais c'est présent tout au long de la pièce.
Oui, enfin, et là je repense à Duras qui a écrit sur Bérénice deux fois. Elle dit qu'elle n'a jamais, je n'ai jamais rien décrit sur, enfin elle a, pardon, mais elle a écrit deux fois sur ce qu'elle appelait les amants du temple, et elle était fascinée, oui, par cette figure de femme qui était à la fois reine et qui après s'est laissée être esclave. Elle parle beaucoup de cette souveraineté dans l'esclavage, de cette femme qui, voilà, qui est victorieuse là-dedans, et c'est une figure qu'on recroise après dans beaucoup de ses œuvres.
Il y a une tendance aujourd'hui, que ce soit au théâtre ou dans d'autres formes artistiques, à réviser les classiques sous un regard féministe. Et on a pu... ça vous fait rire, Julie Brochet. Non, mais c'est vrai. Je pense évidemment à Cathy Mitchell, mais je pense... on a beaucoup parlé, par exemple, de cette fin de Carmen inversée, où c'est Carmen qui survit. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît quoi, utile, inutile? Finalement, Bérénice parle pour elle-même, Mélodie Richard, dans cette dimension féministe. Question difficile à 12h27.
Question difficile. Je vois peut-être à la fin de cette pièce une réunion des contraires. Quelque chose. Je m'avance tout doucement dans ce que je viens de dire. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Mais entre peut-être une idée qu'on aurait du féminin et une idée du masculin. Mais enfin, justement, ici, Bérénice est une reine. Une guerrière, une grande prêtresse, c'était la prêtresse du temple de Jérusalem avant sa destruction par Titus. Et effectivement, quand elle combat dans cette scène de rupture, voilà, c'est plus ni une femme ni un homme, c'est quelqu'un qui l'on enlève tout et qui à la fin va réunir tout. Voilà.
Julie Brochen, je vous ai vu sourire.
Oui, puis c'est une femme qui aime un homme et deux hommes qui aiment éperdument une femme. C'est tout simple. On parlait de l'Orient tout à l'heure. L'Orient, c'est quand même une expérience au théâtre comme dans la vie que nous avons aujourd'hui sur le fait de perdre complètement ses propres repères occidentaux. C'est-à-dire que c'est un voyage de perte de repères. Et donc, ce qu'elle propose, Bérénice, c'est justement de réinventer les lois. Et il n'y a pas de féminisme là-dedans, il y a de l'humanisme, il y a de l'amour et de l'amour des mots et de la beauté. Est-ce qu'on veut que notre monde soit beau? Est-ce qu'on œuvre pour ça? Ou est-ce qu'on est prêt à le faire, quitte à faire l'expérience qu'ils font de la plus grande abnégation, de la plus grande, de plus grand sacrifice possible?
Et de la joie.
Et de la joie. Terminons sur ce mot. Ça, merci. Merci beaucoup, Mélodie Richard. Je rappelle que vous êtes donc Bérénice jusqu'au 10 juin aux ateliers Berthier et l'Odéon Théâtre de l'Europe. Il y a aussi un récital, parce que vous chantez, on n'en a pas parlé, ce sera le 3 juin. Et vous chantez un sixième acte de Bérénice, j'ai lu ça.
Oui,
vos compositions, puisque vous jouez aussi du piano. Julie Brochen, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Vous avez aussi une actualité à Paris, au Lucernaire, au Théâtre du Lucernaire, puisque vous avez collaboré. Ah, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset. Ce sera à partir du 6 juin. Merci beaucoup à tous les deux,
Merci
toutes les deux d'être passées par la Grande Table.
Merci.